Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, une émission proposée par Isabelle Duché.
Le chemin de la paternité nous conduit résolument vers Dieu. C'est la conviction d'un des invités de Radio Présence aujourd'hui. Comment cette affirmation résonne-t-elle dans le cœur d'autres pères de famille d'âges divers ? La paternité comme chemin vers Dieu, c'est le message fort qui se dégage de l'ouvrage « Lettres aux pères de famille » écrit par Benoît de Blanpré. Il est en ligne avec nous. Bonjour monsieur.
Bonjour Isabelle.
Vous êtes marié depuis 30 ans, vous êtes père et déjà grand-père. Avec moi dans les studios de Radio Présence, deux autres pères de famille, Raoul de Scorail, bonjour.
Bonjour.
Donc vous êtes marié depuis 33 ans, donc c'est vous le plus vieux marié de notre émission ce matin. Et vous avez quatre enfants, dont un au ciel, entre 29 et 25 ans. Et Paul Lassalette, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes marié depuis 12 ans et vous avez quatre enfants et quatre filles, plus spécifiquement. Merci à tous trois d'avoir accepté mon invitation pour parler de cette belle vocation de la paternité. Et je précise que cette émission se situe dans la perspective de la fête des pères que nous célébrerons dimanche. Et voilà, nous allons démarrer nos échanges. J'aimerais demander à chacun l'idée qu'il se faisait de la paternité au début de son mariage. Peut-être que vous, Raoul de Scorail, qui êtes le plus vieux marié, comme on l'a dit, vous pourriez commencer par nous partager cela.
Alors moi, je pensais que c'était un long fleuve tranquille et que tout allait bien se passer. Et puis, on s'aperçoit que non, que ça peut être quelquefois stressant et engageant. Voilà. Et quand je pensais à ça avant de me marier, j'avais peur de ne pas être au niveau, en fait. Voilà. Parce que je trouvais que c'était une vraie vocation et qu'on sortait d'une vie tranquille et on allait être bouleversé par ça. Et notre vie allait prendre un autre sens, une autre direction.
Voilà. Oui. Benoît de Blanpré, quelle était-vous votre idée de la paternité au moment où vous vous êtes engagé dans le mariage ?
Alors, d'abord, chers amis, pardon d'être loin, j'aimerais être avec vous à Toulouse, mais je suis retenu, hélas, à la capitale pour des réunions. Mais je rejoins ce qui a été dit. J'imaginais peut-être un long fleuve tranquille et puis un peu des images d'Épinal. Et en fait, la vie se charge de rendre les choses un peu plus complexes. Et d'ailleurs, je trouve que c'est la beauté de l'engagement du mariage, c'est qu'on s'engage sans trop savoir vers quoi le bon Dieu va nous emmener. Et il nous emmène sur des chemins qui sont toujours bien plus grands que ceux qu'on peut imaginer. Donc, je trouve ça très beau, ensuite, tout au long de la vie conjugale et de la vie paternelle, de rester fidèle à ce oui qu'on a donné sans trop savoir vers quoi il nous emmènerait. Voilà, mais la paternité, voilà, c'est à la fois un projet, mais c'est aussi l'acceptation de l'inconnu et l'acceptation d'être entraîné par ses enfants sur des chemins de traverse.
Oui, Paul Lassalette, vous partagez ces impressions, ces avis ?
Oui, tout à fait. Après, moi, j'avais une grande impatience de la paternité. Et chose assez étonnante, pourtant, je ne m'étais jamais vraiment interrogé là-dessus. Donc, j'ai vraiment accueilli ça comme une grâce et comme c'est venu. Après, au fur et à mesure que nos enfants sont arrivés, c'est vrai que j'avais une grande impatience à la paternité. Et j'avais focalisé ça beaucoup sur les garçons, parce que je suis une famille où on est cinq enfants et à majorité de garçons. Et donc, ça a un peu tout chamboulé dans mes schémas. Et c'est pas pour ça que ça s'est pas bien passé. C'est une joie de tous les jours. Mais c'est vrai que j'ai dû un peu reprendre à zéro tous les schémas que j'avais. Qu'est-ce que je vais faire avec mes enfants? Comment je vais les accompagner au quotidien et dans la foi et tout. Et c'est vrai que c'est pas la même chose pour des filles ou pour des garçons, même s'il y a des choses qui sont communes. Et j'ai pas trop pu méditer sur la chose, étant donné que je m'attendais vraiment à
avoir une fratrie.
Avoir une fratrie majoritaire de garçons. Et je sais même pas pourquoi d'ailleurs, parce que c'est très bien aussi d'avoir des filles.
Et oui. Donc c'est les chemins de Dieu qui sont surprenants. Vous écrivez, Benoît de Blanpré, dans votre livre, que être père, c'est un voyage pour lequel aucun d'entre nous n'est véritablement préparé. C'est vrai qu'il n'y a pas véritablement d'école de la paternité. Comment vous avez finalement appris à être père ?
Alors effectivement, le chemin de la paternité, encore une fois, ce que je disais en introduction, c'est qu'on s'engage sans trop savoir vers quoi on va aller. D'abord, évidemment, c'est nos épouses qui nous apprennent en premier à être père. Je trouve que c'est ce qui est beau dans le mariage, c'est un engagement à deux pour se lancer dans une aventure incertaine, magnifique, un peu comme moi j'aime beaucoup la montagne. On sait qu'il va y avoir des calmes plats, il va y avoir des montées un peu plus difficiles, mais l'objectif, c'est voilà, c'est de monter très haut et très loin vers le ciel. Donc c'est avant tout mon épouse qui m'apprend à être père en étant complémentaire de ce qu'elle est. Le père, à mon sens, celui qui instaure les règles, qui donne l'exemple, et la mère dans la douceur, dans l'attention aux enfants. Donc cette complémentarité nous apprend ensemble à être père et à accompagner nos enfants, parce que d'ailleurs c'est une chose qui est absolument magnifique et donc que j'écris dans le livre, c'est que je suis bouleversé par le projet de Dieu qui est de nous confier ses enfants pour les faire grandir, alors qu'il le ferait très bien lui-même et beaucoup mieux que moi. Eh bien non, il accepte de me prendre avec mes limites, mes imperfections et de faire grandir les enfants qu'il nous confie.
Vous voulez réagir, Paul Lassalette et Raoul de Scorral, sur cette façon dont finalement vous grandissez dans la paternité. Qu'est-ce qui vous fait grandir?
Alors moi, ce qui me fait grandir, c'est que j'ai appris très vite la paternité avec les événements de la vie. J'ai compris que on prenait la main de son enfant, mais qu'il fallait aussi rapidement savoir la lâcher. Voilà. Donc, il fallait aussi apprendre à s'abandonner, à faire confiance dans le Christ, parce que ben la vie, c'est comme je disais au début, c'est pas forcément un long fleuve tranquille. Il y a des événements qui peuvent intervenir. Et donc, il faut apprendre à gérer ces événements, ce qui, quand ils se présentent, et savoir aussi donc se remettre au Seigneur pour qu'il nous aide à traverser tout ça.
Oui, bien sûr. Paul Lassalette?
Oui, moi, ce qui m'a marqué, c'est cette idée d'abandon, de s'abandonner à la providence, surtout moi qui ai encore des jeunes enfants. C'est une découverte de chaque jour. On n'a pas le recul forcément qu'on peut avoir lorsqu'on a des enfants un peu plus grands, qui ont eu des passages à l'adolescence ou autre, et des plus jeunes. Donc, on comprend rapidement qu'on n'a pas la maîtrise de tout et qu'on ne l'aura pas forcément. Et du coup, ouais, il y a cette idée d'abandon.
Oui, cet abandon, et vous avez raison, cette confiance. Dans son livre Indomptable secret de l'âme masculine, John Eldredge évoque le désir d'aventure qui est profondément ancré dans le cœur de l'homme. Est-ce que ça vous est arrivé de vous décourager d'une vie banale, routinière, plate, alors que vous rêviez d'aventure? Ou bien est-ce que vous diriez que la paternité en elle-même est une aventure? Benoît de Blanpré?
Alors ça, c'est un thème qui me passionne. Effectivement, moi, je rêvais d'aventure. Quand j'étais encore jeune et puis jeune marié, moi, je lisais des romans d'explorateurs, de montagnards notamment, de découvreurs de nouveaux continents, d'officiers. Et j'avais dit à Hermine, mon épouse, dès qu'on peut, on part. On part vivre des grandes choses. Alors, il se trouve que dans ma vie professionnelle, parce que j'ai travaillé pour des organisations humanitaires à travers le monde, il se trouve qu'on a beaucoup bougé et qu'on a en quelque sorte vécu ce type d'aventure. Mais avec un peu de maturité désormais et 30 ans de mariage, je m'aperçois que la plus belle aventure, c'est pas tant l'aventure physique ou au loin que l'aventure du quotidien. Et je me suis détaché de ces rêves pour essayer de vivre véritablement ma vocation dans la vie quotidienne. J'appelle à une forme de sainteté de la banalité, de la sainteté de l'ordinaire. Et la tentation toujours, d'échapper à sa vie quotidienne en rêvant d'autres choses. Et là où le bon Dieu nous appelle à vivre ici et maintenant. Et il y a bien des auteurs qui ont dit que la plus belle aventure aujourd'hui, c'était celle des pères de famille. Et c'est pas une phrase marketing, c'est une réalité. L'aventure de la simplicité, d'être fidèle à son épouse, d'être attentif à ses enfants, de régler les affaires domestiques, eh bien cette simplicité de l'abandon et de la discrétion me paraît une aventure parce qu'elle nous emmène au-delà de ce que nous sommes, parce qu'elle nous demande beaucoup d'efforts. Et je pense de plus en plus que c'est ça qui nous est demandé de vivre. Et c'est en ce sens que le mariage et la paternité est une véritable vocation, c'est-à-dire un appel à aller au bout de nous-mêmes.
Paul Lassalette.
Alors moi, étant fils d'officier de Légion, j'ai eu la chance de toucher un peu du doigt à cette aventure en suivant mes parents, mon père dans ses différentes mutations. Et c'est quelque chose que, évidemment, on a envie de reproduire avec ses enfants. Après, chacun n'a pas forcément un travail ou une vie qui lui permet de partir loin, longtemps. Mais là où je vous rejoins, c'est que cette aventure, elle est quand même vivante au quotidien, dans notre foi, dans nos vies du quotidien, et elle peut aussi se concrétiser par énormément de petites choses simples. Et moi, je suis toujours émerveillé des aventures que se créent les enfants dans leur jeu, dans leur foi, dans leur vie, quand ils nous parlent des saints, quand... ils nous parlent de leurs aspirations, surtout chez les très, très jeunes enfants. Donc, elle peut être à deux sens, même si... moi, j'ai envie de vivre des aventures avec mes enfants et je pense qu'on essaiera avec mon épouse de partir peut-être les amener dans un voyage, dans quelque chose qui les ferait sortir un peu de leur quotidien.
Ah oui, oui. Une mission humanitaire.
Oui, une mission humanitaire, quelque chose, voilà, soit qui a peut-être un sens social ou spirituel. Mmh. Ou peut-être aussi une aventure d'exploration.
Raoul de Scorail, sur ce volet de l'aventure, aventure rêvée peut-être avant de vous engager, et puis cette aventure du quotidien dont parle Benoît de Blanpré.
Alors moi, je suis plutôt dans le regret, parce que quand je me retourne, je me dis, j'aurais dû faire ci ou ça. Et quand je vois des jeunes couples qui, dans les premières années de mariage, partent à l'aventure pendant un an, deux ans, en étant finalement dans la confiance, parce que ils se fichent de savoir comment ça se passera au retour, et ils partent avec leurs enfants, et je pense que effectivement à ce moment-là on met en place des souvenirs, des choses qui vont des marqueurs pour la vie, voilà. Et ça, je regrette un petit peu. En même temps, j'essaie de ne jamais avoir de regrets dans la vie.
Oui.
Voilà.
Oui. D'accord. Alors, autre image qu'on peut avoir, c'est cette attente de la société à propos du père de famille. On attend de lui qu'il soit fort, qu'il ne pleure pas, qu'il ne laisse pas paraître ses émotions. Est-ce que cette attente, pour vous, elle est justifiée? Et puis, si elle n'est pas, qu'est-ce que l'image de l'homme qui ploie, qui peut hésiter, qui peut tomber, vient révéler à vos yeux? Raoul, je vous redonne la parole.
Alors, je pense que l'homme, il est fragile, hein, donc effectivement, quand on a des choses qui se passent de difficiles dans notre vie, on doit être le pilier de la famille, mais on s'aperçoit aussi que la société moderne a fait qu'aujourd'hui, l'épouse doit être tout aussi pilier. Voilà. Bon, ça, c'est ce que voudrait la société, mais moi, je retourne souvent au classique et bien souvent, effectivement, on s'aperçoit que nos épouses, elles comptent sur nous, on a besoin de partager, mais au final, c'est quand même nous qui tenons un peu tout ça. Et, enfin, j'exagère en disant ça, mais disons que il faut qu'on soit fort, parce que si on montre des faiblesses, c'est un peu toute la famille qui peut s'écrouler. Quoi.
Voilà. Oui.
Donc il faut quelquefois mentir à nos épouses en leur faisant croire qu'on est fort, alors qu'en fait, intérieurement, on est très très faible.
Vous partagez, Benoît de Blanpré, cette ambiguïté?
Alors c'est vrai qu'il y a un appel de la société à ce que les hommes soient forts. Et d'ailleurs, je suis impressionné de voir, notamment dans le monde du travail, je rencontre beaucoup d'hommes qui le matin mettent un costume au sens propre et figuré du terme pour endosser la responsabilité qu'on leur confie. Alors à la fois, c'est évidemment très bon d'être responsable, mais parfois il y a cet écartèlement entre ce qu'on met sur nos épaules et puis ce que nous sommes véritablement. Et le Christ nous appelle à mettre sur lui nos fardeaux. Ça, pour moi, c'est un appel qui est absolument magnifique. Et Et je pense quand même que cette tension entre une société qui appelle les hommes à être forts ou à ne jamais plier et à la réalité de ce que nous sommes est quand même un écartèlement difficile. Et je suis touché, moi, quand je doute, je me replonge dans les Écritures et notamment je regarde le Christ et je suis impressionné de voir le Christ qui pleure, de voir le Christ qui se met à genoux près de la femme pécheresse, le Christ qui s'assoit sur le bord de la margelle pour parler à la Samaritaine. Et c'est cette image de l'homme. À la fois, le Christ, il est bien sûr, il est fort au sens sa parole est forte et il se sait aimé du Père. Et dans le même temps, cette force qu'il reçoit, ça n'est pas pour l'imposer aux autres, mais au contraire pour se faire plus tendre. Et c'est parce qu'il est fort qu'il sent qu'il est capable d'être attentif et tendre avec chacun. Donc je pense que cette image du Christ, tout puissant et tout petit, pour moi, c'est cette combinaison peut-être qu'il faut essayer de vivre. Je sais la mission qui m'est confiée, je sais les responsabilités qui me sont données et je les assume. Et dans le même temps, elles ne sont pas là pour m'écraser, mais au contraire pour essayer de me porter et de porter ceux qui me sont confiés. Donc c'est un équilibre fragile, difficile, mais voilà, moi j'appelle à la tendresse des pères dans un monde qui voudrait qu'on soit dur.
Paul Lassalette, ça retentit en vous ces mots tendresse, équilibre entre justement l'image d'un père fort et puis aussi le père qui se met à genoux, qui se met assis aux côtés à la même hauteur finalement que ses enfants.
Oui, d'autant plus qu'ayant des jeunes filles, elles ne s'attendent pas forcément avoir une image de moi, de dirigeant, d'officier ou autre. Donc j'ai cette. Alors moi, je me sens plus fort que faible, donc ça ne me pose pas trop de problèmes au quotidien. Mais j'essaie d'avoir surtout une exemplarité. Une exemplarité, et cette exemplarité est. Passe quand même par une certaine fermeté et force au quotidien parce que il faut pas se laisser submerger par forcément ses émotions, il faut pas se laisser submerger par la vie, par les soucis qu'on peut avoir. Et cette exemplarité, alors j'essaie de l'appliquer, de l'avoir dans tous les domaines de la vie, hein, autant la spiritualité que le travail, tout ça. Et c'est cette image, voilà, de force et de pilier, pour moi, elle passe par cette exemplarité. Et donc, elle est, à mon sens, quand même tout à fait louable. Et mon épouse aussi est forte. On peut penser parfois que, voilà, que les femmes ont peut-être plus de faiblesse sur les choses matérielles, au moins de sens de gestion. Mais en tout cas, c'est pas le cas dans mon couple et je l'en remercie.
Oui, y a aussi cette autre image hein, du père de famille, celle du bon père de famille, comme dans l'article 450 du Code civil, où le père doit administrer ses biens comme un bon père de famille. Comment vous arrivez à trouver un équilibre entre la nécessaire prudence et puis l'abandon à la providence? Vous disiez, Raoul de Scorral, que vous admiriez les couples qui partaient sans forcément prévoir comment ils allaient atterrir après. Comment vous arriver à trouver cet équilibre entre voilà l'abandon à la providence et la prudence du bon père de famille.
Déjà, je pense que dans la vie, on ne gère pas tout et donc il faut arrêter de se poser trop de questions
Ah.
et faut pas avoir peur en fait, c'est ça. Faut faire confiance et faut pas oublier aussi que tout à l'heure on parlait de nos épouses, mais on est un couple à trois. Il y a le Seigneur et on l'oublie souvent dans ce couple et donc voilà, moi je pense que c'est important quand je me pose des questions et quand je ne sais pas très bien, ou quand en couple on ne sait pas très bien dans quelle direction on doit aller, ben, c'est important de se poser, de prier ensemble, de se poser les bonnes questions et de ne pas oublier de mettre le Seigneur dans notre couple et dans nos réflexions et dans nos décisions.
Oui, et l'aide du Seigneur vous permet de discerner,
Exactement.
voilà, entre l'abandon à la providence et la nécessaire prudence.
Voilà. Bien souvent, on se croit plus fort qu'eux et trop fort et on l'oublie quand il
Oui,
y a un troisième. Voilà.
c'est ça.
Voilà.
Comment vous trouvez cet équilibre, Paul Lassalette?
Je vais le trouver surtout par le soutien que je vais avoir de mon épouse, dans le sens où moi, je suis un naturel optimiste. Donc, m'abandonner à la Providence ne m'a jamais vraiment posé de questions. Je suis d'accord avec Raoul qu'il ne faut pas vouloir à tout prix être dans la maîtrise de tout et de l'ensemble, parce que déjà, ça peut devenir un peu tyrannique pour son entourage. Et surtout, ça crée une espèce de situation d'angoisse dans la famille. Donc, mon épouse me dit toujours, parce que j'ai parfois des questionnements, prie parce que c'est ça, en fait. C'est ça qui peut t'aider, qui peut nous aider. Et je pense que c'est une très bonne solution et c'est un très bon moyen de s'abandonner, la prière. Alors la prière en famille ou la prière en couple. Et c'est comme ça que je pense qu'on peut un peu se libérer de ces angoisses sur l'avenir.
Oui. Benoît Blanpré, vous témoignez dans votre livre que vous avez fait le choix de travailler pour des associations humanitaires, des ONG, et que, en contrepartie, le salaire n'était pas forcément mirobolant et peut-être parfois un petit peu limité pour faire vivre une famille nombreuse. Et pourtant, vous avez fait ce choix, vous avez fait confiance.
C'est un thème que j'aime beaucoup, hein, et sur lequel je me suis longtemps cogné le cœur. Comment être un père responsable et un chrétien abandonné, vraiment abandonné à la providence. Et là aussi, c'est un chemin étroit que nous sommes invités à suivre. Mon modèle dans ce domaine, c'est Saint Joseph, que j'ose appeler mon meilleur ami du ciel, qui est tout à la fois responsable, et on voit comment il accueille Marie, il part au recensement, il cherche un lieu pour qu'elle puisse accoucher, il fuit le massacre des saints innocents, et il se réfugie en Égypte, il travaille, et donc il est totalement responsable, donc il assume ses responsabilités du quotidien, et l'avenir, il remet tout dans les mains de Dieu. Et pour moi, cette question de l'abandon et de la responsabilité, c'est une question de temporalité. Ma responsabilité aujourd'hui de père, c'est de bien faire mon travail, d'être un époux attentif, d'être un père éducateur. Ça, c'est ce que je dois faire à court terme, à moyen terme. Tout le reste, souvent tout ce qui est au-delà de 3 mois, 6 mois, c'est la providence. L'avenir appartient à Dieu et je lui remets entièrement tout ce qui pourrait m'inquiéter pour demain. C'est vraiment un chemin très étroit qui demande en permanence à être réajusté. Oui. Mais voilà, la responsabilité, c'est maintenant. L'abandon, c'est demain. Et dans cette voie étroite, ça libère énormément les pères. Je vois trop d'hommes qui vivent leur vie quotidienne uniquement en prévision de demain. Mais du coup, en quelque sorte, ils essayent de mettre leur famille à l'abri. Mais en fait, ils s'enferment dans une forme de forteresse qui les empêche de vivre. Et j'appelle les hommes à vivre leur vie quotidienne et à faire confiance à leurs enfants, faire confiance à leur épouse et faire confiance en Dieu qui nous conduit vers des demains qui sont bien plus grands que notre cœur.
Je vous propose de marquer une pause et nous verrons après. Je vous laisserai rebondir sur Saint Joseph, hein, modèle de la paternité et sur cette responsabilité que Dieu confie dans l'éducation des enfants. Nous écoutons « Mes enfants », justement, interprété par Grégoire.
Sachez qu'il y aura des hasards qui auront le goût de destin et des étoiles dans la nuit noire, de fausses routes, de vrais chemins. Il y aura des jours avec et il y aura des jours sans, bien moins de victoires que d'échecs, malheureusement, fatalement. Et sachez qu'il y aura des peines et des après tout, c'est comme ça, parfois des joies qui nous emmènent dans des lieux qu'on ne connaît pas. Il y aura de bonnes surprises et des mauvaises, évidemment, et sûrement de jolies méprises, des grains de folie par moments. Sachez que c'est l'espoir qui gagne et qui terrasse l'indifférence. C'est lui qui déplace des montagnes, c'est lui qui provoque la chance. Et c'est l'envie et non la rage qui doit tracer votre chemin. Il doit y avoir dans vos bagages du courage pour vos lendemains. Sachez qu'il faut respecter l'autre et que votre cœur lui pardonne sans jamais rejeter la faute, qu'il faut donner plus qu'on vous donne et qu'il faut laisser le mensonge au lâche, au faible, à l'apeuré. Et lorsque le chagrin vous ronge, il faut savoir vous relever. Sachez qu'il faut vivre vos rêves et qu'il faut choisir l'aventure, qu'il faut aider celui qui crève, celui pour qui tout est plus dur. Il ne faut jamais oublier d'où vous venez et qui vous êtes, et ne jamais s'abandonner quand c'est le pire qui se répète. Sachez aussi qu'il ne faut pas succomber à leurs invectives. Il faut rester honnête et droit, sans être de ceux qui les suivent. Et peu importe où vous allez, quels que soient vos choix, vos désirs, oui, peu importe qui vous aimez, tant qu'on ne vous fait pas souffrir. Sachez aussi, quoi qu'il advienne, quel que soit l'endroit ou l'instant, c'est pour toujours que je vous aime et que je suis là, mes enfants.
Vivante Église, Isabelle Duché.
De retour dans cette émission consacrée à la paternité comme chemin de sainteté avec Raoul de Scorail, Paul Lassalette et Benoît de Blanpré. Juste avant cette pause musicale, vous évoquiez, Benoît Blanpré, la figure de Saint Joseph qui était votre modèle. Pour vous deux, Paul Lassalette et Raoul de Scorail qui êtes en plateau et qui avaient été contactés parce que vous êtes des habitués du pèlerinage des pères de famille, donc avec une certaine dévotion vis-à-vis de Saint Joseph. Qui est-il pour vous et comment vous l'invoquez? Pourquoi vous l'invoquer?
Alors, j'espère que je ne vais pas gêner par mes réponses, mais pour moi, Saint-Joseph, c'est vraiment un exemple. Et souvent, je me dis, est-ce que j'aurais accepté que mon épouse, ma fiancée, me dise « je suis enceinte, mais pas de toi ». Et Saint-Joseph, c'est pour moi la personne qui s'abandonne, qui s'en remet au Seigneur. Et finalement, qui lui a dit ben, « Seigneur, quel est ton plan ?» Et je le suivrai. Et puis aussi... Saint-Joseph, c'était un super père parce que finalement, il avait un fils qui en faisait quelquefois un peu casse-tête, qui était imprévisible, et il a toujours été là. Et il a toujours suivi le chemin, il a toujours tenu la main de son fils. Et ça, c'est pour moi, c'est un exemple extraordinaire.
Mmh. Paul Lassalette.
Moi, je suis d'accord avec Raoul. C'est l'exemple, pour moi, Saint-Joseph, c'est l'exemple parfait de l'abandon à la Providence et au Seigneur. Et d'ailleurs, il y a quelque chose qui m'a marqué, c'est que dans les Écritures, on ne retient quasiment aucune parole de Saint Joseph. Il est dans l'acceptation totale. C'est son exemple, en fait. C'est son exemple qui compte. Et c'est un très bel exemple de paternité, comme l'a dit Raoul, car il a quand même éduqué le Seigneur Jésus-Christ. Et il s'en est quand même occupé, donc comme un père qu'il était, mais dans la situation particulière.
Eh oui, quand même pas courante. Hein. Benoît de Blanpré, dans votre lettre au père de famille, vous écrivez « Si le septième jour après la création, Dieu s'est mis à l'écart, ce n'était ni pour s'en détourner, ni parce qu'il avait tout achevé, mais pour nous en confier la responsabilité. » De quelle responsabilité parlez-vous et quelle est cette responsabilité qui incombe au père de famille?
J'ai mis du temps à comprendre ça.
Ouais. Pas évident.
Souvent on a l'impression que le septième jour, Dieu se repose parce que c'est l'œuvre est terminée, qu'il a créé
Exactement.
Le monde, les animaux et les astres du ciel et les hommes, et puis voilà, le job est terminé. Pas du tout. Le monde n'est pas terminé, mais il accepte à la fois dans sa toute-puissance et dans son humilité de se mettre en retrait et il dit aux hommes, eh ben maintenant c'est à vous d'être co-créateur, de continuer la création que j'ai entreprise. D'abord, ça me bouleverse de la confiance que Dieu nous fait. Et objectivement, à sa place, j'aurais repris la main assez vite, vu l'état du monde et vu ma petitesse. Mais non, à chaque fois, il me dit, Benoît, je te fais confiance. Je sais de quoi tu es pétri, je connais tes talents, mais je connais tes faiblesses. Et chaque jour, il reprend ma main et il me dit, allez, on y va ensemble et on continue le monde que lui a commencé à créer. Et notre responsabilité, là, dans cette discussion autour des pères de famille, prendre soin de nos épouses, exercer notre activité pour pouvoir prendre soin de nos familles, et puis faire grandir nos enfants, les faire grandir comme Saint-Joseph, en taille, en intelligence et en sagesse, c'est ce que dit l'Écriture, responsabilité exceptionnelle. Je suis responsable, moi, des enfants que Dieu me confie, et ma responsabilité, ben, voilà, c'est de prendre soin d'eux, de pouvoir les nourrir, les vêtir, les protéger, et puis je suis gardien de leur âme. Incroyable projet où là aussi Dieu aurait pu dire bon, Benoît, tu t'occupes de tout sauf de leur âme parce que c'est bien trop fragile. Eh bien, pas du tout. Je te propose, Benoît, de les conduire vers moi, nous dit Dieu, moi qui les ai créés, moi qui suis leur créateur, je te propose d'en prendre soin. Moi, je trouve ça absolument bouleversant. Et le plus beau cadeau que m'aient fait mes parents, c'est de tourner mon regard vers Dieu. Tout le reste, certes, ils m'ont apporté un certain confort, une éducation, etc. Mais par-dessus tout, en les voyant, ils m'ont fait découvrir Dieu. Et je pense que c'est notre responsabilité ultime, c'est de tourner le cœur de nos enfants vers le bon Dieu, responsable de leur âme. Quelle belle et grande responsabilité.
Mmh. Paul Lassalette, vous voulez réagir?
Oui, dans le scoutisme que j'ai pratiqué dans ma jeunesse, on parle souvent de charge d'âme. Et c'est vrai que ça résonne le jour où on devient père, on reçoit ce cadeau du Seigneur et je trouve que on ressent, moi c'est quelque chose que j'ai ressenti de l'Esprit Saint, voilà cette petite personne, tu as charge d'âme. Tu n'es pas seulement là pour l'éduquer, tu es aussi là pour l'accompagner dans la foi, l'accompagner vers le Seigneur, c'est un cadeau extraordinaire du Seigneur et de la vie. Et c'est cette mission qui m'a fait prendre conscience de mes responsabilités de père. Peut-être plus que la partie matérielle qui est, j'ai envie de dire, relativement facile à assurer au quotidien. C'est vraiment cette charge d'âme. Comment moi, pauvre papa qui vient d'avoir cet enfant dans les bras, et avec mon épouse, on va arriver à porter cet enfant dans la vie et à lui transmettre notre foi de chrétien, à l'amener à l'église, à l'accompagner dans ses sacrements, à le catéchiser, alors que nous, on a énormément de carences sur le sujet. Comment on va faire pour le maintenir dans un environnement qui sera porteur pour lui et pour sa foi. Et c'est ça qui est très beau.
Oui. Raoul de Scorral, quand Benoît de Blanpré dit que le Seigneur établit les pères de famille gardiens des âmes de leurs enfants, ça, je vous vois un petit peu tiquer, ça vous paraît énorme?
Ça me paraît... c'est une question qui est compliquée. Mmh. Et quand on a préparé cette émission, je me suis dit comment je peux répondre et je n'ai pas vraiment trouvé la réponse.
Alors, je vais vous poser une autre question. Comme ça, vous allez pouvoir répondre. La question sur comment vous expliqueriez ce qu'est être un saint papa?
Alors... pour moi, un saint papa, c'est quelqu'un qui, par son exemple, va faire grandir ses enfants. C'est quelqu'un qui, avant de s'énerver, par exemple, va s'en remettre à la prière pour éclairer un peu sa conscience et prendre la décision juste. Et un saint papa, c'est pas forcément un papa exemplaire, parce qu'on peut paraître exemplaire, mais dans le fond, on ne l'est pas réellement. Mais c'est un papa aimant et qui, au travers de sa relation de couple... montre à ses enfants que seul l'amour peut faire durer les choses. Voilà. Et je pense qu'en étant un saint époux, on devient un saint papa. Voilà.
D'accord.
Donc c'est grâce à nos épouses saintes qu'on devient des saints époux et qu'on peut devenir un saint papa. Voilà.
La sainteté est vertueuse et elle circule, en tout cas. Oui. Voilà. Benoît de Blanpré, c'est quoi pour vous être un saint? Alors, je ne dis pas un saint père parce qu'on pourrait confondre avec le pape. C'est pour ça que je dis un saint papa.
En tout cas, c'est pas le héros ou l'homme parfait. Ça, c'est sûr. On a un peu tendance à souvent, quand on voit quelqu'un de très très bien, on dit c'est un saint. Je pense que c'est une erreur parce que la sainteté, c'est pas du tout la perfection. C'est la volonté de tourner son cœur vers Dieu et d'essayer toujours au mieux de conformer nos désirs et nos actes et nos paroles à Dieu lui-même, mais avec, encore une fois, nos manquements et nos faiblesses. Et du coup, un saint papa, moi, je dirais, c'est celui qui emmène ses enfants vers le ciel. Je ne voudrais pas trop spiritualiser, mais ça me paraît tellement essentiel. J'ai une phrase que j'aime bien, c'est que le héros dit « regardez-moi » et le saint dit « regardez-le ». Et moi, je pense que, encore une fois, ce que mes parents m'ont le plus apporté, c'était des gens, ce sont des gens très discrets, avec une foi très discrète. Mais en les voyant agir, je me disais, ce Dieu qu'ils aiment, il doit être tout à fait formidable pour que mon père se mette à genoux devant lui et le serve autant. Eh bien, si à mon tour, par mon comportement, par mes actes et mes paroles, j'ai pu donner un petit éclat de Dieu dans la famille, alors je pense que c'est ça la mission qui m'a été confiée. Et je ne serai pas du tout canonisé, je serai simplement au sein de la cellule familiale, un petit morceau de Dieu auprès de ceux qui m'ont été confiés, et cette sainteté me suffira. Et en famille, au ciel, on jubilera pour l'éternité.
J'aime beaucoup cet exemple que vous donnez d'un de vos amis qui s'appelle Rock. Et vous écrivez « Devenir des saints, que tout arrange et que rien ne dérange ». Vous parlez de faire les conduites des enfants le week-end pour le sport, pour le scoutisme, etc. Les tâches administratives, être capable, de transformer nos services en joie et en occasion d'aimer.
Ah, c'est gentil de mentionner Rock, que j'ai connu sur l'île de la Réunion et qui me rendait plein de services. Et il me disait toujours « Ah, ça m'arrange !» Et je découvrais souvent plus tard qu'en fait, ça ne l'arrangeait pas du tout, qu'il avait fait un détour pour moi ou qu'il s'était levé plus tôt. Et je me disais « Si on peut rendre service sans du tout le faire peser aux autres, mais en faisant croire que ça nous arrange, c'est formidable. C'est qu'on transforme la charge en joie. » Et effectivement, être des pères que rien ne dérange et que tout arrange, ça aussi, ça peut être une forme profonde et simple de sainteté.
Oui. Paul Lassalette, sur cette question de la sainteté du papa.
Alors pour moi, le saint papa, c'est celui qui donne envie à ses enfants de le devenir. Alors, vaste sujet, vaste mission, sachant qu'on est rarement saint, et moi, encore moins que les autres. Oui, comme tout bon chrétien. Et c'est cette envie de sainteté, moi, alors je le ressens d'autant plus parce que j'ai des petites filles, donc elles sont fascinées par les saints. Elles sont fascinées en plus par les nouveaux saints qu'on a dans l'Église, comme Carlo Acuti, qui sont un formidable exemple pour leur jeunesse. Elles sont aussi fascinées par chose assez étonnante, par exemple, par des saintes, par Sainte Jeanne d'Arc. Et c'est vrai que c'est des exemples pour elle, et j'aimerais être aussi un exemple de sainteté pour elle, même si je le suis rarement en toute chose.
Qu'est-ce que vous diriez après ces 12 années de mariage et ces 4 filles que vous avez, qu'est-ce que vous diriez sur la façon dont cette paternité vous a fait grandir, vous a changé?
Alors, c'est amusant parce que hier, c'est la question du coup que j'ai posée à mes filles. Je leur ai demandé, c'était un peu difficile, à mon épouse également. Bon, je leur ai demandé qu'est-ce que vous m'avez apporté. Et c'est vrai que bon, j'ai entendu quelques remarques très enfantines et tout ça. Et je crois que c'est Flore qui m'a dit la joie. Et j'ai trouvé ça touchant. Et je me suis dit, c'est vrai, la principale chose que m'ont apporté mes enfants, c'est la joie. Et la principale chose que m'a apporté mon mariage, c'est la joie. Et cette joie, elle est aussi indispensable sur le chemin de sainteté, parce que les choses doivent être lumineuses dans le couple, dans la famille. Et je pense que c'est cet optimisme, c'est cette joie, c'est cette envie d'aller de l'avant avec les enfants, avec la famille, de faire les choses qui nous porte vers le Seigneur. Et donc, il faut mettre de côté la déprime du quotidien, les tracas, et c'est là où on revient à cet abandon à la Providence. Oui, acceptons cette joie extraordinaire que nous donnent les enfants, et en particulier les jeunes enfants, qui sont au final toujours joyeux et jamais déprimés. C'est extraordinaire.
C'est un bel exemple. Raoul Doscora, je vous vois écrire et prendre des notes pendant ces échanges.
Alors, je trouve que les enfants, ils nous bousculent beaucoup, y compris dans notre foi, parce qu'ils sont très exigeants, c'est-à-dire qu'ils ne nous permettent pas le moindre écart et la moindre limite. Et je pense qu'en plus, c'est une génération où ils sont encore plus exigeants que nous. Parce que bon, moi, ma génération, c'est mai 68, pour les choses se passaient un peu comme ça. Et aujourd'hui, non, il y a un besoin d'exigence qui est très important. Donc souvent, ils me mettent face à mes contradictions. Et donc ça, mes enfants, ce qu'ils m'ont beaucoup apporté, c'est de m'aider à prendre du recul, de m'aider à aller à l'essentiel et de m'aider à vraiment mettre le Seigneur au cœur de notre couple et à être un exemple là-dessus.
Voilà. Benoît de Blanpré, pour conclure cette émission et votre échange entre pères de famille, qu'est-ce que vous diriez, vous, pour évoquer dans quelle mesure la paternité vous a changé ?
Moi, j'ai envie de dire, elle a tout transformé en moi. Je m'appelle Benoît et j'ai grandi à l'ombre de Saint Benoît, le fondateur des moines d'Occident. Et je voulais, je le dis simplement, je rêvais d'être moine. Et je pensais que voilà, en étant enfermé dans une abbaye, en priant et en travaillant, je deviendrais saint, mais peut-être un peu seul. Et la paternité, la vie conjugale m'a, ouais, arrivé comme un cadeau dans ma vie, tout à fait inattendu. Et depuis 30 ans que je vis au quotidien cette aventure, je suis absolument bouleversé de voir d'abord que la famille, c'est une petite église domestique, que c'est vraiment le lieu du ora et labora, la prière et le travail. Il me semble que c'est la mission du père et de l'époux, et que c'est pas par mes propres forces que je vais vers le ciel, mais justement par ma famille qui m'est donnée et par mon épouse qui est, pardon pour le mot, mais mon marchepied vers le ciel, de même que mes enfants sont les instruments de ma sainteté. Souvent, mon père spirituel me disait, Hermine, t'es donnée comme instrument de ta sainteté. Extraordinaire de voir nos épouses et nos enfants comme, non pas du tout comme une charge, mais au contraire comme un cadeau qui nous est fait pour devenir saints, c'est-à-dire d'aimer plus le bon Dieu. Et moi, plus j'aime Hermine, plus j'aime les enfants, plus j'aime Dieu, et plus j'aime Dieu, plus j'aime mes enfants et mon épouse. Donc voilà, ça a tout transformé en moi, et c'est pour ça que j'ai écrit cette lettre au père de famille comme une action de grâce pour cette magnifique vocation des pères. Et je suis heureux que le pape Léon XIV ait dit samedi soir aux jeunes en Espagne, oui, que le mariage était une vocation et non pas simplement un penchant naturel, mais véritablement une réponse à l'appel de Dieu. Et je crois que je vais envoyer ma lettre au pape.
Vous avez bien raison.
Pour remercier pour ces mots.
Donc effectivement, cette lettre aux pères de famille aux éditions MAM. Merci Benoît Blanpré de nous avoir fait part de toute cette réflexion. Et merci aussi à vous, Raoul de Scorail et Paul Lassalette, d'avoir partagé ce qu'est aujourd'hui cette vocation du père de famille comme chemin qui conduit à Dieu, chemin de sainteté. C'était Vivante Église, votre émission quotidienne de la vie chrétienne en Occitanie.
Merci.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00. 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.